Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Terre d'Épargne. Terre d'Épargne propose à ses auditeurs des contenus simples et pratiques pour bien piloter leur patrimoine en décryptant les actualités des marchés financiers, en analysant les phénomènes économiques et en expliquant les concepts financiers pour bien épargner. Je laisse la place à nos experts.
Bonjour à toutes et à tous. Le panorama économique a finalement beaucoup changé en l'espace de quelques semaines. On a plusieurs économies qui sont en récession. Alors on parle de récession technique, donc deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. C'est le cas par exemple au Royaume-Uni, c'est le cas également en Allemagne ou encore en Finlande. Malgré tout, ce qui est important de voir, c'est que quand on évoque des récessions techniques, on n'est pas sur un effondrement du PIB, on n'est pas sur une crise financière, et donc très généralement, ce type d'épisode survient de manière assez normale dans le fonctionnement de l'économie. On a bien sûr quand même du côté européen quelques points noirs qui subsistent, c'est notamment bien évidemment l'Allemagne qui est dans une situation un tout petit peu compliquée. On a du côté allemand à la fois un problème sur le secteur manufacturier qui perdure avec une baisse de la production qui est extrêmement marquée. C'est lié tout simplement à l'ouverture économique allemande, au fait qu'elle est très dépendante du commerce international et bien évidemment de la Chine. Et l'autre point, on commence à voir quelques fragilités au niveau du secteur immobilier. Sur l'immobilier résidentiel, on a une baisse très importante des prix et notamment de l'activité, mais on commence aussi à voir certains acteurs financiers qui sont des acteurs plutôt minoritaires, mais qui sont exposés aussi aux problématiques d'immobilier commercial aux États-Unis avec un effondrement des prix et un niveau de vacances des bureaux aux États-Unis qui ne cesse d'être à des niveaux très élevés. Malgré tout, derrière cela, le point qui est positif, c'est qu'à court terme, on n'a pas de risque systémique, notamment du fait de cette exposition de certaines banques allemandes à l'immobilier commercial. Et le deuxième élément, c'est que même si ça va être compliqué pour l'Allemagne à court terme, voire probablement à moyen terme, c'est-à-dire dans les années à venir, sur du temps long, l'Allemagne a quand même la grande capacité d'inverser la situation, de retrouver de la compétitivité, de réorienter son modèle économique, puisque c'est fondamentalement l'enjeu. Du côté français, finalement, la situation n'est pas si mauvaise que cela. On n'est pas en récession technique, donc c'est déjà un premier bon point. Le gouvernement estime que la croissance pourrait être à 1% du PIB. Soyons très directs, c'est très certainement objectif, parce que pour avoir 1% de croissance sur l'année 2024, il faut 0,2% ce trimestre, 0,2% au deuxième trimestre, ce sont les estimations de l'INSEE, ce qui veut dire qu'on doit avoir un rattrapage en deuxième partie d'année très important, avec au T3 et au T4 une croissance respective de 0,7%. Alors soyons très objectifs, c'est peu probable. On va plutôt être sur une croissance économique qui devrait sur l'ensemble de l'année 2024 tourner autour de 0,5-0,7%. Mais objectivement, est-ce que ça change fondamentalement la donne? Non, on reste dans un régime de croissance qui est plutôt très faible. Et bien évidemment, du côté européen, c'est compliqué, mais j'oserais dire, comme très souvent, on a une surperformance à l'inverse de l'économie américaine. Du côté américain, si on regarde à peu près tous les indicateurs, on a de bonnes conditions. C'est le cas bien sûr de la consommation, à la fois à la fin d'année 2023, mais également sur les premiers mois de l'année 2024, on a une consommation qui se tient très bien du côté américain. On a également un marché d'emploi qui est très solide. A priori, on devrait avoir encore des créations d'emplois qui soient soutenues, mais qui soient essentiellement le fait du secteur public. On a un phénomène de rattrapage à cet égard. Le niveau d'emploi au niveau du secteur public n'a rattrapé son niveau d'avant-pandémie que vers fin 2023. Donc on sait qu'on va avoir encore des créations d'emplois dans les mois à venir sur ce segment-là. L'autre élément, c'est que l'inflation, bien sûr, elle reste un peu élevée, mais objectivement, elle diminue et donc ce n'est pas vraiment un sujet aujourd'hui de cet aspect-là. On va peut-être regarder à très court terme un peu ce qui se passe encore sur l'alimentation et les services d'hébergement. Mais la réalité, c'est que objectivement, on a une surperformance de l'économie américaine. Pour être très clair, je vous disais par exemple sur la France, on devrait être à 0,2% de croissance au premier trimestre. Aux États-Unis, on devrait être à 2%, ce qui montre effectivement le différentiel qui est majeur. Alors, même si on sait que généralement la macroéconomie, surtout à très court terme, n'exerce pas une influence importante sur l'épargne, sur la bourse, la réalité, c'est qu'il y a quand même une exception. Ce qui se passe du côté américain, du côté de la macroéconomie américaine, ça a une influence directe sur la bourse. Pourquoi ? Parce que foncièrement, ça va avoir une influence sur l'évolution des flux de capitaux. Si je suis un peu plus limpide, lorsque vous avez une économie qui surperforme le reste du monde, très nettement, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui, bien évidemment, tous les flux de capitaux, et donc c'est concrètement l'épargne, va se recycler aux États-Unis. Elle part d'Europe, elle va aller aux États-Unis, elle part des pays émergents, elle va aller aux États-Unis. Et ça, c'est un phénomène qui est marquant, qui fait qu'aujourd'hui, on est sur une dynamique qui reste extrêmement positive du côté du marché des actions aux États-Unis. Alors, on est toujours sur le même schéma que depuis le début d'année qu'on a souvent mentionné, à savoir qu'on a une concentration de cette fameuse épargne, essentiellement dans quelques acteurs qui sont finalement ces fameuses 7 magnifiques, hein, ces valeurs adossées à la haute technologie, certaines notamment à l'intelligence artificielle. Ça, ça ne devrait pas changer et fondamentalement, tant qu'on a cette surperformance économique américaine, c'est une lame de fond qui favorise le marché des actions aux États-Unis et essentiellement ces grandes valeurs très liquides. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une petite poche d'épargne qui peut être intéressante. Qui doit bien sûr rester une poche faible dans votre exposition, notamment dans votre exposition action, c'est le Japon. On en avait discuté ces derniers mois et ça se confirme, on a vraiment le retour durable des investisseurs sur le marché boursier japonais. Le marché boursier japonais, c'est des valeurs qu'on connaît tous, Toyota, Nissan notamment, qui ont de très bons chiffres d'affaires, qui sont bien internationalisés et avec de très bonnes performances. Récemment, l'indice boursier japonais, le Nikkei 225, a atteint son record historique et ça continue de monter et selon nous, ça va continuer de monter. On a énormément d'arguments qui vont dans ce sens-là, mais par exemple, on en a au moins deux qui sont importants à mettre en avant de notre point de vue. C'est tout d'abord qu'on a des entreprises cotées en bourse au Japon qui sont en très bonne santé. Par exemple, le profit des entreprises nippones a triplé par rapport à la fin des années 90. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important. Vous avez aussi des rachats d'actions de la part de ces entreprises qui perdurent et on le sait que du côté américain, c'est aussi une lame de fond qui favorise la hausse et bien évidemment, il n'y a pas d'exception, ça va également favoriser la hausse du côté japonais. Et enfin, peut-être le dernier point, c'est que vous avez aussi aujourd'hui des entreprises qui veulent redistribuer aux actionnaires. C'est très très net, elles ont beaucoup de cash dans leur trésorerie, donc c'est un point positif. Elles veulent redistribuer et ça, très clairement, c'est aussi un élément qui va favoriser les actions japonaises cette année. Donc en termes de placement de votre épargne, bien sûr, toujours incontournable lorsqu'on est sur le marché des actions pour les États-Unis. Et là, c'est vraiment, j'oserais dire, quelque chose qu'on va retrouver régulièrement chaque année. Il n'y a pas de grand changement à cet égard. C'est très rare que l'Europe boursière surperforme les États-Unis à cet égard. Et de l'autre côté, c'est peut-être en termes de diversification, s'intéresser un peu à ce qui se passe au Japon, parce qu'on voit très nettement quand même qu'on a un retour durable des investisseurs à cet égard. Pour la conclusion, l'année 2023 a été un peu la bonne surprise boursière, c'était le Japon. Et de notre point de vue, 2024 va être la confirmation du retour durable des investisseurs étrangers dans l'archipel, donc un point vraiment à surveiller. Merci encore à toutes et à tous. On se retrouve très bientôt pour un autre point sur la macroéconomie et les marchés financiers. Merci encore à tous aussi pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre.